Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez bénis. Merci aux musiciens pour tout leur travail et les moments par lesquels ils nous conduisent vraiment à essayer de fixer notre attention sur Jésus et sur son œuvre. On est dans une série sur l'évangile de Marc, comme vous le savez depuis déjà quelques temps. Mais si vous nous rejoignez aujourd'hui, on est pile poil au milieu du livre de l'Évangile, et on va répondre à cette grande question: qui est Jésus? Et la réponse, c'est le Christ qui marche vers la croix. On va lire les versets de Marc, chapitre 8, et on va lire tout le chapitre jusqu'au verset 38. Vous êtes prêts? En ces jours-là, une foule nombreuse était de nouveau réunie, et ils n'avaient pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et burent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et il se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens vinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne le sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? » 12 lui répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? » 7 répondirent-ils. Il leur dit « Ne comprenez-vous pas encore ? » Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que les pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier encore pour ce que tu nous as laissé ta parole, afin que nous puissions te connaître. On te prie pour que tu nous rendes captifs de cette parole, pour que tu nous ouvres les yeux, l'intelligence, que tu nous éclaires, Seigneur, que tu fasses ce miracle dans nos cœurs pour nous révéler Jésus-Christ. Nous te le demandons à cause de ton amour pour nous, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta puissance par Jésus-Christ. Amen. On a déjà dit que le grand projet de l'évangile de Jean, de Marc, est de répondre à deux grandes questions. Qui est Jésus et comment le suivre? On est à la moitié de l'évangile et c'est le moment où Jésus va répondre clairement à la première question. Et il va ensuite introduire la seconde, qui sera l'objet de la deuxième partie de l'évangile. Au cœur de notre texte se trouve cette guérison miraculeuse qui est propre à l'évangile de Marc, hein, dans les versets 22 à 26. Elle est aussi particulière parce qu'elle se fait en deux temps, d'une façon progressive, une guérison comme on n'a pas l'habitude d'en voir. D'habitude, Jésus dit une chose et un seul mot, la personne est guérie. Mais là, on a l'impression qu'il doit s'y reprendre à deux fois. Elle a lieu aussi après un échange déconcertant entre Jésus et ses disciples qui ne comprennent pas vraiment qui est Jésus. Au verset 21, on sent une lassitude ici. Jésus leur dit « Ne comprenez-vous pas encore ?» Peut-être que vous avez commencé la lecture de l'évangile de Marc il y a quelques semaines et que vous arrivez là au chapitre 8 et que vous pourriez aussi entendre cette parole de Jésus « Ne comprenez-vous pas encore ?» Vous n'avez pas vu tous ces miracles, le nombre de démons chassés, Jésus marchant sur les eaux, nourrissant la foule. Mais une fois éclairé, une fois qu'il donne la bonne réponse au fond, on se rend bien compte qu'il ne voit pas distinctement malgré tout. C'est ce qu'on voit au travers de la réponse ou la réaction de Pierre qui dit « Non, 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 Seigneur, tu ne dis pas des trucs comme ça. » Il y a quelque chose qui lui échappe. Et il faut une deuxième intervention de Jésus pour qu'il saisisse. J'aimerais qu'on pense aujourd'hui à regarder comme si Jésus nous posait ces questions. Qui suis-je? Et vous devez répondre à cette question. Et puis, quelle est ma mission? Et puis enfin, comment me suivre? Regardons cette première question. Qui suis-je? Le début du chapitre 8, Jésus est toujours dans la Décapole, c'est cette région qui est au sud-est de la mer de Galilée. C'est un territoire qui est essentiellement païen et Jésus est ému de compassion parce que la foule qui l'écoute depuis 3 jours est là et elle persévère dans l'enseignement, mais elle n'a rien à manger. De la même manière qu'il avait fait des miracles pour ce miracle-là, hein, pour les Juifs, pour 5000 hommes, Jésus multiplie les pains et les poissons pour 4000 païens, rappelant ainsi qu'il est venu pour rassasier tous les cœurs, que ce soit des Juifs, que ce soit des non-Juifs. Puis Jésus renvoie la foule Il reprend le bateau pour l'autre côté. Il est parlé ici de Dalmanuta. C'est un village qui est cette fois-ci à l'ouest de la mer de Galilée et qui est plutôt un territoire juif. Et au verset 11, il est interpellé par des pharisiens. Ce sont des hommes religieux de l'époque. Et il lui demande de faire un miracle. Qu'il lui leur donne un signe venant du ciel. Et il demande ce signe afin de pouvoir l'éprouver, dit le texte. En fait, c'est dans l'espoir qu'il sera incapable d'accomplir ce signe et de sorte qu'il pourrait aussi le discréditer. Vous avez déjà entendu des personnes dire « Ah, j'ai demandé à Dieu d'intervenir dans cette situation de ma vie, une situation qui était tellement difficile, et puis il ne l'a pas fait. Alors, je ne croirai pas en lui. » Il n'a pas fait ce que je lui demandais. Alors je ne crois pas qu'il est Dieu. Je ne veux pas de lui. J'ai prié, il ne m'a pas exaucé, je ne veux pas de lui. Vous voyez le côté absurde de ce raisonnement ? Si Jésus est Dieu, ce n'est pas lui qui fait ce que je lui demande. Mais moi, qui me soumets à lui. Et ces religieux ont été témoins d'un miracle, le miracle des pains pour 5000 hommes. Ils ont vu la résurrection de la fille de Jairus qui était le chef d'une synagogue. Tout le monde était au courant chez les pharisiens. De la femme qui était atteinte d'une perte de sang, de nombreuses guérisons et délivrances spectaculaires qui ont été faites dans les synagogues même. Le jour du sabbat. Mais en fait, ils ne veulent pas croire. Parce que croire, ça bouleverserait leur vie. Et ils ne veulent pas voir leur vie bouleversée. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être tendance à demander un signe pour croire? Qu'est-ce que vous attendez pour croire? Je ne parle pas de croire en l'existence de Jésus. Ça n'est pas à croire, c'est un fait, il a existé, il est mort sur une croix et les écrits disent qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je dis, est-ce que vous croyez en Christ? C'est-à-dire que vous acceptez les implications de ces vérités dans votre propre vie? Ou est-ce que vous attendez une révélation particulière pour vous? Un miracle plus personnel, plus éclatant que ressusciter un mort, ou marcher sur les eaux, ou nourrir 9000 hommes avec quelques pains, ou calmer instantanément le vent et la mer, ou délivrer un homme de la puissance des démons. Qu'est-ce que vous attendez encore comme signe pour faire plier votre volonté devant le Seigneur, le Dieu, le Créateur de l'univers qui vous aime et qui veut régner sur vos cœurs qui sont en faillite à cause du péché. Jésus ne leur donnera pas d'autres signes, parce qu'ils ne croiront pas avec un miracle de plus. Et la Bible dit ici qu'il les quitta. Si vous attendez un signe, et qu'aujourd'hui vous avez la parole entre les mains, vous n'aurez pas d'autres signes. Parce que si vous ne croyez pas ces vérités, vous ne croirez pas, quand bien même il ferait encore un signe pour vous. Il reprend le bateau avec ses disciples et part un peu plus au nord, vers Bethsaïda. Et à bord, Jésus met en garde ses disciples concernant le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Ça, c'est au verset 15. Le levain symbolise souvent l'influence. Les influences spirituelles auxquelles vous êtes soumises peuvent entraîner des effets dramatiques. C'est ce que Jésus est en train de dire. Faites attention aux influences qui sont autour de vous. Par exemple, un ami qui est toujours en train de critiquer ce que font les autres et qui lui-même ne fait jamais rien, finit par vous contaminer. Son attitude déteint sur vous et vous vous mettez à votre tour à critiquer et à ne rien faire. Les gens dirigent leur vie selon leur propre vision du monde. S'il n'y a pas de jugement, si votre vision du monde, c'est celle-là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de résurrection, mais alors, vivez comme bon vous semble. Vivez égoïstement, vivez sans tenir compte des autres, sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de la mort. De toute manière, rien n'a de plus d'importance. Mais s'il y a une résurrection, s'il y a un jugement, si on peut perdre son âme, comme Jésus le dit ici, alors vivez autrement. Gardez-vous des influences néfastes. Choisissez attentivement les personnes que vous fréquentez parce qu'elles vous influencent. Je veux m'adresser aux jeunes en particulier. Vous êtes à un âge où on est en train de forger ces convictions. Si vous êtes sans cesse sous des influences qui vont vous éloigner des choses de Dieu, alors vous allez leur ressembler. Dans ce monde, l'influence est constante. Le levain des pharisiens désigne l'hypocrisie religieuse, au fond, le ritualisme, la propre justice. Ils se faisaient passer pour des personnes d'une grande sainteté, alors qu'intérieurement, ils étaient pourris, corrompus, souillés. Le levain d'Hérode, lui, c'est plutôt la culture du scepticisme. On doute de tout. Et puis l'immoralité. Il vivait dans l'immoralité et c'est pour ça qu'il a fait tuer Jean-Baptiste. C'est la mondanité. La culture matérialiste et les influences immorales, c'était la culture romaine de l'époque et c'est encore notre culture aujourd'hui. Gardez-vous avec soin de telles influences. Les disciples ne saisissent pas du tout la portée de l'instruction du Seigneur et s'imaginent que s'ils disent cela, c'est parce qu'ils n'ont pas pris les pains qui leur restaient. La nourriture est bien la dernière chose qui devrait préoccuper les disciples à ce moment-là. À deux occasions récentes, ils ont vu Jésus créer miraculeusement des pains pour 9000 personnes et eux, ils s'inquiètent encore de ce qu'ils vont manger parce qu'ils n'ont qu'un seul pain. Ils n'ont aucune raison de s'inquiéter de ce qu'ils mangeront puisque le Tout-Puissant, le grand pourvoyeur est là, dans la barque avec eux. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ne comprenez-vous pas encore, verset 21. Soit ce que nous lisons ici dans l'Évangile est un tissu de fable pour faire rêver des personnes qui sont en manque de sens dans leur existence. Et dans ce cas, vous faites bien de ne pas passer trop de temps à lire la Bible, les fables, parce que le dénommé Jésus n'a en réalité jamais rien fait de tout cela. Soit, et c'est là ma conviction, ce que nous lisons ici est vrai. Les choses se sont bien déroulées comme cela. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas simplement dire que Jésus était un sacré rabbin. Parce qu'un sacré rabbin n'est pas capable de faire ce que Jésus a fait. Il n'y a que le Créateur qui le peut. Et vous ne pouvez pas reconnaître Jésus comme le Créateur et puis passer votre chemin. Si vous reconnaissez Jésus comme le Créateur de l'univers, votre Créateur, vous ne pouvez pas juste continuer comme vous marchez aujourd'hui. Ça a des implications directes sur votre vie. Arrivé à Bethsaïda, Jésus guérit cet homme, cet aveugle. Et ça, c'est c'est étonnant, c'est le premier récit d'une guérison d'un aveugle dans l'évangile de Marc. Lorsque Jean-Baptiste était emprisonné, il a eu un moment de doute, de déprime. Et il a dit à ses disciples, qu'il a envoyé vers Jésus, allez lui poser la question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi Jésus leur répond cela ? Mais parce que l'Ancien Testament, et en particulier le prophète Ésaïe, identifie le Messie de cette manière. J'aimerais vous lire Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Écoutez cela. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. » En chapitre 7 de l'évangile de Marc, juste avant le passage que l'on vient de lire, Jésus a guéri un sourd muet. Et quand il l'a guéri, au verset 37, les gens disaient « Il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Et c'est une référence directe, cette surdité le côté muet de cette personne, c'est une référence directe à ce que le Messie doit faire. La dernière chose qu'il devait faire, c'est faire voir des aveugles. Et là, il accomplit ce dernier miracle. Jésus a fait tout. Tout ce qui nous permet de le reconnaître comme le Messie. Jésus colle en tout point avec la description qui est faite du Messie. Alors Jésus emmène ses disciples à Césarée de Philippe, un petit peu plus au nord, et leur demande, au verset 27 à 29, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Jean-Baptiste, certains, Élie, d'autres, l'un des prophètes, bref, un homme, quoi. Et vous, les disciples, qui dites-vous que je suis ? Vous, les disciples, qui étiez avec moi dans la barque lors de la tempête. Vous, les disciples, qui étiez dans cette barque quand je marchais sur les eaux et qui avez pris peur. Vous qui avez distribué des pains et des poissons qui n'ont jamais vu l'eau à des milliers de personnes. Vous qui avez vu la jeune fille revenir à la vie, l'aveugle voir et le sourd entendre. Qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, rassemblant tout le témoignage du début de l'Évangile, dans sa pensée, dit « Tu es le Christ. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie, tu es celui qui vient de Dieu pour nous sauver. » Marc a commencé l'Évangile en disant « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » C'est la première fois qu'on parle du Christ, verset 1, les premiers versets de l'Évangile. Ici, c'est la deuxième fois qu'on trouve le mot. Et c'est la première fois qu'un homme confesse Jésus-Christ, Jésus comme étant le Christ, le Messie. Est-ce aussi votre réponse ? Est-ce que après avoir lu tous ces chapitres de l'évangile de Marc, après avoir examiné chaque passage, chaque miracle, est-ce que vous pouvez dire « Je sais aujourd'hui, Jésus est le Christ !» Parce que personne ne peut faire ces choses s'il n'est pas le Christ. J'espère que vous êtes convaincus de cela. Mais regardez ce qu'il dit juste après. Étonnamment, après qu'ils aient fait cette découverte, Jésus leur dit leur fit cette recommandation sévèrement de ne le dire à personne. Presque, ils devraient être contents et finalement ils ont une bonne réponse là. C'est la vérité. Et il leur dit, ne le dites à personne. Et sévèrement. Comme il l'avait fait pour le sourd-muet et comme pour l'aveugle qu'il guérit, ne le dites à personne. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Parce qu'il y a une vérité essentielle que les disciples doivent encore découvrir avant d'aller parler à tout le monde de qui est Jésus. Il ne voit pas encore tout clairement. Un message qui insisterait que sur les guérisons miraculeuses de Jésus serait insuffisant. Jésus n'est pas seulement un guérisseur. Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui pourvoit à nos besoins. Non, le message complet doit aussi inclure la mission de Jésus. Et on va regarder à présent quelle est ma mission. Après ce moment sublime de révélation, d'ailleurs l'évangéliste Matthieu, dans le passage parallèle, il rapporte que les paroles de Jésus, où Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », ça c'était l'ancien nom de Pierre, « car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela ». Oui, il a fallu une révélation divine aux disciples pour qu'ils comprennent que Jésus est le Christ. Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux pour qu'on regarde Jésus comme il l'est vraiment. Après une telle révélation, Jésus leur révèle ce qui va lui arriver. On voit ça au verset 31. « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, le Messie, souffre beaucoup. » Qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Oh, il avait déjà évoqué sa mort et sa résurrection, mais plutôt d'une manière un peu sous forme de parabole. Il avait dit, par exemple, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Il avait dit aussi comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de l'homme, le Messie, sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais maintenant, il leur parle, le texte nous dit, verset 32, ouvertement. Il leur dit les choses ouvertement, c'est-à-dire d'une manière limpide, tellement claire. Et il le fera encore au chapitre 9 et au chapitre 10. L'idée que le Messie puisse souffrir n'avait aucun sens pour les disciples. Le Messie est vainqueur. Le Messie, il triomphe de ses ennemis. Il est Dieu et il instaure son règne de justice. Il délivrera son peuple de l'occupation romaine. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas souffrir beaucoup. Il ne peut pas être rejeté par les scribes, les principaux sacrificateurs. C'est lui leur patron. Alors Pierre le reprend. Il reprend Jésus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne peut pas t'arriver. Tu chasses les démons, tu nourris les foules. Tu défies les lois de la gravité en marchant sur les eaux. Toutes choses te sont soumises. Tu ne peux pas être rejeté et mourir, non. Mais la réponse de Jésus est cinglante. « Arrière de moi, Satan !»« Tu ne conçois pas les choses de Dieu. »« Tu n'as que des pensées humaines. » Pierre ne voit pas encore comme Jésus veut qu'il voie. Il voit flou. Il ne voit pas la mission de Jésus. Et régner sans connaître la croix, c'est la tentation du diable. Mais Jésus est venu pour mourir et pour payer pour nos fautes. Vous avez remarqué, verset 31, il emploie le mot « falloir », le verbe « falloir ». Il faut que le Fils de l'homme meure. Il indique ici son intention de mourir et sa pleine volonté de le faire. Ce n'est pas, simplement une prédiction qu'il fait. Mais c'est comme cela que ça doit se passer. Et c'est ça qui scandalise Pierre. C'est une chose de dire « je combattrai, mais je serai vaincu ». Et c'en est une autre de dire « c'est pour cela que je suis venu. Je viens pour mourir. J'ai prévu de mourir. Et c'est de cette manière que je vaincrai le mal, que je redresserai la situation. » Jésus doit souffrir, doit être rejeté. Jésus doit être mis à mort et doit ressusciter. C'est une nécessité absolue. Si Jésus ne meurt pas, le monde ne sera pas transformé, sauvé. Si Jésus ne meurt pas, il n'y a aucun espoir pour aucun de nous d'être transformé, d'être sauvé. Jésus doit mourir, il veut mourir parce que c'est le seul moyen pour nous racheter, pour nous pardonner, pour que nous puissions être à nouveau en communion avec lui pour l'éternité. Il faut que Jésus meure pour détourner de nous la colère de Dieu et payer la pénalité du péché, c'est-à-dire la mort. Il faut que Jésus meure pour montrer l'étendue de la grâce et de l'amour de Dieu pour les pécheurs. C'est à la croix qu'on voit son amour pour nous. Il faut que Jésus meure pour nous ouvrir l'accès à sa présence, maintenant et pour l'éternité. Il faut que Jésus meure pour nous affranchir de l'esclavage du péché et vaincre le diable et ses démons. Il faut que Jésus meure pour révéler la sagesse infinie de Dieu. Il faut que Jésus meure pour rétablir l'harmonie de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Comprendre qui est Jésus, c'est comprendre qu'il est Dieu, le Christ, mais c'est aussi comprendre sa mission. Et sa mission, c'est donner sa vie pour nous sauver. Est-ce que vous avez saisi sa mission? Vous croyez que Jésus est le Christ? Est-ce que vous croyez qu'il est venu pour mourir pour vos fautes? Je me souviens très bien du jour où j'ai compris cette vérité. Jusqu'à présent, je pensais que c'était un accident. C'était une simple injustice que Jésus avait été mis à mort. Je pensais qu'il n'aurait jamais dû mourir. Que c'était dommage qu'il soit mort. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait qu'il meure pour que je puisse être sauvé. Et c'était une révélation de la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. C'était le seul moyen efficace pour toujours que je puisse être pardonné. Comment répondre à cette question? Comment me suivre? Quand j'ai compris ces deux vérités essentielles, qui est le Christ et sa mission, qu'est-ce que je fais avec ça? La réponse que Jésus donne ici, c'est de prendre sa croix et de le suivre. C'est-à-dire faire comme lui. Lorsqu'on comprend comment fonctionne l'Évangile, comment Christ a remporté la victoire en mourant, alors on adopte la même voie. Si vous suivez Jésus, tant qu'il vous donne des pains et des poissons, tant qu'il vous guérit de vos infirmités et de vos maladies, et de vos peines, alors c'est ici que vous descendez du train. Parce que là, il dit, suivez-moi sur un chemin de renoncement, suivez-moi sur un chemin difficile, suivez-moi jusqu'à la mort. Et là, il y a un prix à payer pour être disciple de Christ. Si Jésus est vraiment le roi, il ne peut pas être un moyen de parvenir à vos fins. Pierre, peut-être il s'imaginait bien Jésus président, Jésus roi, et puis lui, premier ministre. Mais Jésus lui dit, pour régner sur les cœurs, je vais mourir sur une croix. Et toi, si tu veux régner avec moi, prends ta croix, suis-moi. C'est pour ça que ça l'a révolté. Vous ne pouvez pas utiliser Jésus. Vous ne pouvez que vous mettre à ses pieds et lui dire « Que veux-tu que je fasse ?» Vous ne pouvez pas lui dire « Je t'obéirai si tu fais ça pour moi. » Vous ne pouvez pas lui dire « J'arrête de te suivre parce que tu n'as pas répondu à mes attentes, à mes prières. » Quand je t'ai demandé un travail, tu ne me l'as pas donné. Quand je t'ai demandé une épouse, tu ne me l'as pas donné. Alors, ciao. Si Jésus est Dieu, si Jésus est mort pour vous, vous ne pouvez que le suivre. Si vous dites, je te suivrai si, c'est que il n'est pas votre roi. Vous ne croyez pas encore qui il est. Votre bouche peut dire comme Pierre, tu es le Christ. Mais votre vie dit quelque chose de différent. Vous pouvez dire, tu es le Christ, et ça, c'est de la bonne théologie. Mais votre théologie réelle, celle que vous croyez véritablement, c'est celle que vous pratiquez. Prendre votre croix, c'est renoncer à déterminer vous-même ce que sera votre vie. C'est perdre le contrôle de votre vie et arrêter d'utiliser Jésus pour mener à bien vos projets. Prendre votre croix, c'est accepter de perdre votre vie. Pour certains chrétiens, en particulier pour les disciples, cette exigence ira jusqu'à la perte de la vie physique. Mais pour tous, pour nous tous, elle signifie la mort à nous-mêmes et notre attachement à Jésus. C'est faire passer les intérêts des autres au-dessus des nôtres. C'est renoncer à la vengeance, à la rancœur. C'est pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ne pas attendre d'être servi pour servir notre prochain. C'est faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Prendre votre croix, c'est cesser d'attendre que votre conjoint fasse ceci ou cela pour vous, mais que vous commenciez à le servir comme Christ est venu pour vous servir. Mais Jésus n'est pas seulement un roi. Il est un roi qui est allé jusqu'à la croix pour vous. Ça signifie que vous ne lui obéissez pas simplement parce qu'il a toute autorité, mais parce que vous avez connu son amour pour vous. Et vous allez l'aimer et lui faire confiance en retour. C'est en regardant Christ crucifié que vous allez trouver le désir de le suivre, le désir de l'aimer, le désir de renoncer à votre propre vie, lui faire confiance. Si Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, le Messie, le roi de l'univers, le parfait, et qu'il a effectivement renoncé à tout pour que nous soyons sauvés en mourant à notre place, alors je ne peux pas être son disciple incognito. Mais je vais le proclamer autour de moi. Je vais m'afficher avec lui, comme disent les jeunes. Et pour lui, et notamment par le baptême, vous avez noté ces versets ? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Il est en train de tirer une ligne ici, en disant, maintenant, si vous avez honte de moi, au milieu d'une génération qui est pervertie, qui est corrompue, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. J'aurai honte de vous le jour où je viendrai. Il y a un moment où je ne peux pas faire autrement que me déclarer pour Jésus-Christ et le faire ouvertement devant une génération perverse et corrompue et me tenir du côté de Christ et lui dire « Il est mort pour moi !» Il est le Messie. Il est celui qui m'a tellement aimé. Je veux que ma vie, elle le serve et qu'elle le glorifie désormais. Et c'est ce qu'on fait le jour où on s'engage dans les eaux du baptême. Et je vous invite à réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'affirmer cela? Est-ce que vous avez cru dans votre cœur qu'il est le Messie? Est-ce que vous avez cru dans votre cœur qu'il est mort à votre place? Alors, suivez-le. Les choses qui vous retiennent, peut-être, c'est ce que le monde pense, et toutes vos réflexions. Et c'est ça, mourir. Mourir à ces réflexions-là. Et prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris l'équation ? Au verset 35, elle est claire. Hein ? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est le miracle de l'Évangile. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a remporté la plus grande des victoires. Le mal a été anéanti, le péché a été détruit, les démons et le diable et la mort ont été engloutis dans sa victoire. Et s'il nous appelle dans le même chemin, eh bien on va aussi connaître cette victoire. On va aussi connaître cette véritable vie. Vous devez répondre à cette question. Que Dieu nous vienne en aide. Nous pouvons vraiment lui faire confiance. Que c'est en prenant notre croix et en le suivant que nous réussissons véritablement notre vie. C'est en acceptant de suivre Christ que notre vie portera beaucoup de fruits. Que Dieu nous vienne en aide. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité, elle est efficace, Seigneur, pour parler à nos cœurs. Seigneur, on est bien comme ses disciples. On ne comprend pas toujours très bien à qui tu es et ce que tu as fait pour nous. On est conscient, Seigneur, de notre besoin d'être éclairé par toi. Et je prie pour que dans ces moments, à l'écoute de ta parole, par l'action de ton esprit, tu éclaires chacun de nos cœurs pour que l'on comprenne qui tu es et ce que tu as accompli pour nous et comment nous pouvons te suivre en nous engageant, Seigneur, à une vie de renoncement, à une vie de mort à nous-mêmes, d'attachement à Jésus-Christ, mais à une vie victorieuse, à une vie qui triomphe de la mort, à une vie qui porte du fruit abondant, comme la tienne a porté du fruit, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux du cœur pour qu'on puisse saisir ces vérités. Par Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez répondre à l'appel de Jésus-Christ, ce matin, j'aimerais que vous veniez me voir vous-même et puis qu'on puisse parler ensemble. Je me tiendrai à la sortie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, musiciens.
On va prendre un dernier chant. On peut se lever.